Deutsche Welle Allemagne Magazine.
Hambourg, février 1917, lettre d'une ouvrière.
Ici, on ne peut pas dire que ce soit très gai. Voilà déjà 5 semaines que nous n'avons plus de pommes de terre, et pour ce qui est de la farine et du pain, c'est tout juste. On se couche le ventre vide, on se lève le ventre vide, et toujours ces betteraves. Sans pommes de terre, sans viande, tout est cuit dans l'eau.
Hamoga Echo, journal local du Parti social-démocrate.
Les ouvriers, les artisans, les petits fonctionnaires se plaignent chaque jour un peu plus de la misère qui grandit quotidiennement.
Hambourg, cantine de guerre.
Tout est réservé aux riches, à ceux qui possèdent. Les beaux discours comme quoi il faut tenir. C'est bon pour la classe ouvrière. La classe dominante, elle, a mis ce qu'il fallait de côté.
Vivre en temps de guerre, impression à l'arrière, c'est reparti comme en 14, dernier épisode de notre série spéciale consacrée au centenaire de la Première Guerre mondiale, avec cette semaine un gros plan sur la grande ville portuaire du nord de l'Allemagne, Hambourg. Et puis nous essaierons de dresser un petit bilan de cette guerre qui est souvent considérée en Allemagne comme une catastrophe originelle, comme le ferment de la montée du nazisme et du désastre à venir, celui de la Seconde Guerre mondiale. Merci d'être à l'écoute une fois de plus. Guten Tag, bonjour à tous.
Naja, wir denn man noch eine Lütsche Runde kämen Bär und den wollen wir mal einsingen, wa? Wir haben die ganze Welt gesehen. Die Welt ist überall rund, um alle paar Monate vor Anker zu gehen bei einem Mädelmund.
La semaine dernière, nous étions à Berlin. Cette semaine, nous remontons vers le nord, vers Hambourg, la grande ville portuaire de l'Allemagne. Aujourd'hui, il reste peu de traces du Hambourg d'avant 1914. La Seconde Guerre mondiale et les bombardements alliés à l'été 1943 ont défiguré durablement la ville. En revanche, il reste des quantités de témoignages et d'archives sur cette guerre 14-18. Sébastien Martineau, notre correspondant sur place, a laissé traîner son micro du côté des musées de la ville. Et voici son reportage.
En cette année du centenaire de 1914, les grands musées historiques allemands ont presque tous leur exposition consacrée à la Première Guerre mondiale et Hambourg n'échappe pas à la règle, avec notamment au musée des arts et métiers un éclairage sur l'utilisation nouvelle et massive de la propagande pendant ce premier conflit mondial. Denis Conrad est le commissaire de cette exposition.
Nous nous trouvons pendant la Première Guerre mondiale dans une phase de mutation médiatique. Il existe désormais des médias qui permettent de s'adresser à de grandes masses de personnes et d'influencer l'opinion du public. C'est ainsi qu'il y a 100 ans, ont été établies des formes de manipulation de l'opinion que l'on peut en fait observer jusqu'à aujourd'hui. Et cela signifie qu'en regardant vers le passé, on peut en apprendre beaucoup sur le présent.
La guerre s'invite même dans le coffre à jouer des enfants avec des figurines de soldats, des jeux de société, des canons miniatures. Tout cela dans une société qui, déjà avant-guerre, laissait une place importante à l'armée.
Hambourg est, comme d'autres villes à l'époque, marqué par une société nettement militarisée. L'armée est présente dans l'espace public avec des parades, par exemple.
La propagande de l'époque, on en trouve des traces jusqu'à aujourd'hui dans les livres consacrés à 14-18. Beaucoup d'illustrations sont en fait des images de propagande qui mettent en avant l'enthousiasme des soldats partant à la guerre. Au musée pour l'histoire de Hambourg, il n'y a pas cette année d'exposition consacrée à 1914. L'institution se prépare pour le centenaire de la fin de la guerre, ce sera donc en 2018. Mais le premier conflit mondial occupe déjà le personnel. Dans le bureau de l'historien Olaf Mathes, des archives encore non exploitées sont posées ici et là. On trouve des journaux, des cartes de rationnement pour l'alimentation. Une question centrale dans ce conflit, celle des pénuries alimentaires et des tentatives des autorités pour y répondre. Olaf Mathes raconte.
Man hat versucht, im Jahr 1915 beginnend. On a essayé à partir de 1915 de mettre en place ce qu'on appelait des cantines de guerre, des Kriegsküchen. Rien qu'en 1915, il y en avait 58. En 1916, déjà 70. Et près de 150 000 personnes y recevaient chaque jour de quoi manger. Toutefois, la nourriture était affreuse. Il y a des extraits terribles de journaux personnels tenus par des Hambourgeois qui se plaignent que ce n'est vraiment pas mangeable.
L'approvisionnement de la ville est rendu compliqué par sa taille même, près d'un million d'habitants avant la guerre, et par la stratégie militaire des Britanniques.
Les Anglais ont mis en place dès le mois d'août 1914 un blocus maritime qui a tout de suite fonctionné. Le port de Hambourg s'est retrouvé quasiment à l'arrêt. L'énorme machine économique de Hambourg était pour ainsi dire à terre.
4 années de guerre, même loin du front, c'est donc toute la vie quotidienne qui est bouleversée. Le marché noir et la débrouille compensent en partie les pénuries, mais n'empêchent pas la mort de milliers d'habitants, incapables de trouver de quoi manger. Les faillites d'entreprises, grandes ou petites, se multiplient et, petit à petit, dans cette ville déjà sensible aux idées progressistes, la population commence à se révolter. Ce sont d'abord des manifestations spontanées contre les pénuries, mais dans le courant de 1917, puis en 1918, la pression se fait plus intense. Après Kiel, autre ville portuaire, c'est Hambourg qui est gagné quelques semaines avant la fin de la guerre par un mouvement révolutionnaire mené par les marins et les soldats.
Die Revolution begann.
La révolution débuta et un nouveau système politique se mit en place. Hambourg commença à se démocratiser. En 1919, des élections furent organisées pour la première fois au suffrage universel. Les femmes eurent le droit de voter pour la première fois et même de devenir parlementaires, ce que certaines firent en effet. Et c'est ainsi que commença la République de Weimar.
La révolution de novembre donna en effet naissance à la première république parlementaire de l'histoire allemande avec des élections nationales et locales ouvertes à tous les hommes et femmes âgés de plus de 20 ans. Elles eurent lieu au début de l'année 1919. Un nouveau système politique donc et une économie à reconstruire. Au sortir de la guerre, l'Allemagne n'a plus de colonies avec lesquelles échanger et ce n'est pas le seul problème.
Viel schlimmer für Hamburg war allerdings tatsächlich auch im Kontext.
Bien pire pour Hambourg a été la perte d'une très grande partie de la flotte commerciale dans le cadre du traité de Versailles. Imaginez, avant 1914, le plus grand armateur du monde était installé à Hambourg. La HAPAG, la ligne Hambourg-Amérique, était le plus grand armateur, de loin. Et ce secteur florissait. La Première Guerre mondiale a constitué une rupture profonde. Elle n'a pas seulement détruit la flotte marchande, mais aussi tout ce qui s'y rapportait. Des connexions internationales construites sur des décennies. Car la mondialisation n'est pas un mot moderne. Ça existait déjà à l'époque.
S'étant relevé de 2 guerres mondiales, le port de Hambourg craint aujourd'hui d'être dépassé par cette même mondialisation. Les navires porte-conteneurs atteignent une taille telle qu'ils peinent à remonter l'estuaire de l'Elbe jusqu'à Hambourg. La guerre désormais est avant tout commerciale.
Pour le reste, par où commencer? Peut-être encore par des chiffres effrayants qui font dire la chose suivante à l'historien allemand Gerd Krumeitsch. La Grande Guerre a terriblement réduit le respect de la vie humaine. Quand on commence à compter les morts par centaines de milliers et par millions, la vie d'un individu ne vaut plus grand-chose. 2 millions de combattants allemands sont tombés entre 1914 et 1918. 4 millions 200 000 ont été blessés. Sur le plan économique et social, la Première Guerre mondiale a également des conséquences dramatiques. L'Empire allemand, qui s'endette toujours plus pour financer le conflit, en sortira complètement ruiné. Il disparaît politiquement aussi avec l'abdication de l'empereur Guillaume II le 9 novembre 1918. L'année suivante, la République de Weimar signe le traité de Versailles, un traité dicté par les vainqueurs et qui place l'entière responsabilité de la guerre sur l'Allemagne. La toute jeune République hérite donc non seulement d'une montagne de dettes, mais aussi de réparations astronomiques qu'elle doit verser aux Alliés. Un défi impossible, et ce d'autant plus que le traité ampute également l'Allemagne de nombreuses zones qui lui assuraient des revenus. Ses colonies d'abord, nous en avons déjà parlé, mais aussi 13% de son propre territoire. En mettant l'Allemagne à genoux, politiquement, économiquement et moralement, le traité de Versailles a dès sa signature fait l'objet de nombreuses critiques. Écoutez par exemple ces témoignages de Kurt von Lersner, diplomate allemand et membre de la délégation qui s'est rendu en France pour signer le diktat, autrement dit un traité négocié sans les vaincus.
Wie werde ich diese furchtbaren Versailler Tage vergessen?
Jamais. Je n'oublierai ce jour terrible de Versailles, où notre destin politique, trop longtemps fixé par de vieux tigres, où notre misère morale et notre pire déchéance commencèrent. Aucun peuple ne peut longtemps résister s'il n'a pas à sa tête un vrai guide.
Et ce vrai guide, nombreux sont les Allemands qui le trouveront quelques années plus tard seulement en la personne d'Adolf Hitler. Dès le début de sa carrière politique, le futur dictateur milite pour une révision du traité de Versailles, un projet qui lui vaudra beaucoup de soutien, tout comme ses attentions particulières à l'égard des anciens combattants de 14-18, tout comme ses idées d'expansionnisme à l'Est. Mais cela, c'est une autre histoire. Et pour clore la nôtre, les mots qui suivent paraissent plus indiqués. Ce sont ceux de Joseph-Paul Boncour, homme politique français né en 1873 et mort près d'un siècle plus tard, en 1971.
Cette espérance, elle était faite du sentiment général et profond que c'était la dernière des guerres. Que ceux qui étaient morts pour que ce soit la dernière, que jamais plus le monde ne reverrait cette hécatombe.
Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette série spéciale consacrée au centenaire de la Première Guerre mondiale. Vous pouvez la retrouver, cette série, dans son intégralité sur la page Allemagne, dans la rubrique podcast ou dans la médiathèque de notre site internet dw.de/français. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.
La der, bien chérie dans mes bras la danser. Sur son air, que finit pour nous de la journée. La musique comme est un coup, tout d'un coup, on dirait qu'elle ne joue que pour nous. La der, avant de nous quitter dans son art. La der, c'est toujours la meilleure des jabras.